Are you ready?
Pour un artichaut
sur les baignades.
Et ben voilà, Carotte, on est en route pour une bonne émission. C'est parti, le temps qu'on s'installe et qu'on soit bien.
T'as ton maillot?
Pas vraiment. Moi, j'ai oublié mon maillot. Je me baigne en robe.
J'ai pris mon burkini. Mon burkini facette.
Pour le Burkina Faso, c'est plus rigolo.
Ah oui, ah oui. Bon, et eh ben bonsoir à vous.
Bonsoir à vous, ceux en maillot, ceux qui sont sur les plages, ceux qui cuisent, ceux qui sont frais, ceux qui sont dans l'eau de l'océan, ceux qui sont dans l'eau de la mer, ceux qui nagent entre deux eaux.
Où que vous soyez, vous allez passer un super moment à l'écoute de l'artichaut. Carotte revient toujours sur les thématiques de l'été. On est bien, on est en été. Du coup, on reste, donc la dernière fois, ça a été un peu le nudisme. Hein, on a passé une très bonne émission.
Au frais.
Et donc là, la baignade. Comment ça, la baignade? Vas-y, bah, dis-nous en plus.
Bah, en fait, le grand thème de la baigneuse, de la baignade, enfin bref, la femme nue au bord d'une étendue bleue a toujours intéressé et fasciné les peintres. Et donc, ben voilà, comme je pensais piscine, je rêve de la piscine de Rekubo et de Tanguy, que j'ai déjà peint d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, la baignade...
Très beau tableau d'ailleurs.
Merci, je te remercie. Ben, il en a la version petite qu'il a dans sa petite caravane au camping de l'Écureuil et il est fin content. Et du coup, ben voilà, baigneurs et baigneuses, bienvenue dans cette émission de l'Artichaut qui vous est consacrée. Et donc, on va reprendre par les origines, parce que je sais que tu aimes bien toujours qu'on reprenne à la source. Et là, bon, ben, évidemment, il faut justement reprendre du début. Donc, le début, bon, ben, les maîtres qui étaient copiés au Louvre, parce que bon, les gens ne voyageaient pas, hein, comme de nos jours, ils n'allaient pas beaucoup voir la Méditerranée et l'océan. Les artistes un peu plus que le commun des mortels. Mais du coup, c'est le Titien et Rubens qui ont commencé à faire des Vénus ou des scènes mythologiques autorisées, donc avec des nus, on va dire, beaucoup plus plantureux, avec un petit peu de la petite brioche, un petit peu de la cellulite, des femmes qui ressemblaient plus à des femmes du peuple, enfin des femmes comme nous, tu vois, pas des femmes idéalisées comme on fait sur Photoshop. Mais du coup, c'est marrant parce qu'en fait, tout ça continue d'être très moderne. Hein. Sinon, on parlerait pas de la peinture ancienne si c'était pas moderne. Donc, nos amis les peintres, comme ils pouvaient pas, ils avaient pas de congés payés, ils allaient pas à la Méditerranée, ils allaient au Louvre et au Louvre, ils recopiaient les maîtres de l'ancien temps. Et donc, dans les modernes, plein ont vraiment aimé cette femme qui est proche, bien plus proche de la réalité que dans les œuvres où elle a été idéalisée avec ses canons esthétiques pendant des millions d'années.
Bon, encore donc, aujourd'hui, hein. Un stéréotype de la femme parfaite aujourd'hui, enfin de ce qui est supposé être une femme au top, quoi.
Ouais, mais à côté de ça, on a des magazines de fringues de prêt-à-porter pour les femmes plutôt rondes. Il y a des émissions Je me sens ronde, je me sens belle.
Oui, mais il y a une époque, les femmes étaient désirables quand elles étaient rondes, et après c'est devenu désirable quand elles étaient maigres, et après c'était quand il y avait beaucoup de fessiers, pas beaucoup de fessiers. Enfin, selon les époques, ça change quand même.
Ben, y a aussi une idée de l'esthétique entre la procréation, c'est-à-dire la femme aux hanches larges qui est fertile et avec laquelle tu vas te reproduire et faire des enfants, et la femme porte-manteau filiforme qui est l'objet de séduction parce qu'elle ne ressemble pas à celle que tu as dans ton lit et qui est un peu toujours voilà, le désir qu'on n'aura jamais. Bon, après, il y a le problème aussi justement par rapport à nous, ce qu'on prend de plein front, c'est-à-dire la pédophilie, c'est-à-dire l'image de la petite fille, c'est-à-dire un corps asexué, c'est-à-dire on parle d'une grosse femme déesse de la Terre, et puis on arrive par élimination à un corps presque asexué, sans poils et tout ça. Donc du coup, c'est vachement intéressant de travailler sur le nu dans la culture, l'effet que ça fait, la provocation, de voir que d'un point de vue politique, les femmes, elles manifestent en montrant leur sein pour que justement l'objet du désir qu'est la poitrine passe à un niveau inférieur. Donc, mais bon, tout ça, ça va aussi avec un éclatement de la famille, ça va aussi avec l'irrespect de la femme, c'est-à-dire, ben voilà, la femme déesse, on n'y touche pas, la femme blanchisseuse, on lui fout sur la gueule et on en tue une tous les trois jours en France. Bon, du coup, c'est vrai que le problème aussi du désir, de la passion, du voyeurisme, la peinture, elle exprime tout ça et elle sert aussi d'exutoire à tout ça. Donc d'ailleurs, on va parler justement de Cézanne. Donc, comme on repartait de la source, on parlait du Titien, de Rubens, donc de ces femmes bien en chair et dont la peau est déjà plutôt rose, alors qu'avant, elle est comme du marbre, comme de l'albâtre. Enfin, c'est blanc, 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 tout en pureté, tout en écume de mer, quoi. Et c'est Courbet qui, en 1853, va commencer à faire les premiers scandales de provocation en présentant un nu féminin de la réalité. Donc ça crée problème. On trouve que la nature est négligée, que le nu est beaucoup trop massif, que donc c'est pas officiellement approuvé par les canons de la beauté de ce temps-là. Donc du coup, ça passe à... Alas, heureusement, Courbet, il arrive à vendre cette toile qui est d'un grand format. Hein, donc, ces baigneuses-là, elles font 2,27 m par 1,93 m. Donc, la taille aussi est importante parce que si le nu est tout petit, les parties sexuées sont toutes minuscules, la partie pubienne est toute petite. Si le nu, il est énorme et qu'il prend toute la place et que même il est plus grand que la nature, du coup, tout ce qui est organe sexuel paraît beaucoup plus exubérant et pour certains, beaucoup plus obscène. La taille est très importante aussi par le jeu de la dimension de la sexualité et comment tes yeux sont projetés dans le sexe de la dame ou que tu peux l'embrasser d'un seul regard tout entière. C'est très différent. L'effet produit est très différent. Du coup, heureusement, Courbet, qui se fait jeter des tomates, il a un copain acheteur qui va lui acheter cette toile. Et grâce à ça, il va pouvoir devenir artiste autonome, indépendant. Alors aujourd'hui, ce tableau, il appartient à la collection du musée Fabre, qui est à Montpellier. Donc, c'est pas loin, vous pouvez le voir. Alors ensuite, on va avoir Cézanne, donc en 1906, qui va faire ses grandes baigneuses. Donc, c'est un grand format. Et là, c'est intéressant d'en parler parce que là, Cézanne, il vit son fantasme au travers de la peinture. C'est-à-dire qu'il est scindé en deux. Donc, d'un côté, il y a le Saint Paul qui habite à la montagne Sainte-Victoire, qui lui rappelle l'élévation de Dieu, son côté mystique, la pureté et tout ça. Et il va y passer la fin de sa vie à régler son problème de mystique. Mais pendant sa jeunesse, donc, il fait sans arrêt le chemin entre Aix-en-Provence où il a sa mystique, et Paris, qui est sa Babylone. Et je me suis rendu compte qu'il avait clairement un problème avec les femmes, et même un problème simplement de sensualité à être touché par ses amis. Donc il détestait qu'on le touche. Il avait un problème de communication avec les femmes. Donc il les aimait bien, mais à grande distance. Je me suis rendu compte qu'il avait dit beaucoup de mal à propos des femmes, en disant que c'était des veaux ou des calculatrices, quoi, des femmes intéressées. Donc lui, il est vraiment axé sur la femme de Paris qui est la muse, qui se dénude, qui est la prostituée. Et ça, il en rêve, il la fantasme, mais il n'y a pas accès. Et du coup, sa peinture va prendre toute cette violence rentrée et elle va la projeter sur la toile en faisant des femmes donc qui sont très roses et très fardées et qui sont tout simplement la représentation de la putain de Babylone, quoi. Donc du coup, on sent bien qu'il va vers une psychothérapie, il s'auto-soigne en créant ça parce qu'il se calme et on voit bien la colère qui est là-dedans. Van Gogh avait dit lui-même de manière très crue que Cézanne bandait dans sa peinture. Et en fait, si on regarde bien l'effet qu'elle produit, c'est vrai que c'est des scènes d'enlèvement, c'est orgiaque, c'est des bacchanales, il y a même du meurtre. Enfin, c'est très... c'est
sombre.
Très sombre, sanglant. Et ça reflète absolument son problème de sexualité débridée, inassouvie, j'imagine. Alors du coup, on a des portraits de sa femme. Donc on voit bien que sa femme, elle est tout en pruderie, pudibonderie, et qu'elle a juste deux coiffures, avec deux coiffures vraiment austères, soit une relevée, soit un chignon en bas de cou. Et ses fringues sont toujours serrées jusque tout en bas sur la terre et jusqu'à ses petits poignets. Pour ce qui est du reste. Donc lui, on voit son combat dans sa peinture entre ce qui est bien et ce qui est mal. J'ai entendu dire aussi qu'il organisait quand même des petites séances de nus à raison de 4 séances de garçons nus en modèle par semaine pour une séance de journée avec une femme modèle nue, que sur la base de ce
il
travail...
Il était gay, ce brave Cézanne. Ben
oui, je pense qu'il
et
était...
Et puis, c'était pas une époque où tu pouvais en parler fièrement et t'assumer en tant qu'homosexuel, quoi.
Ah ben, ça, c'était pas... c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, bien que le milieu artistique soit relativement ouvert à ce genre de... Ben, à tous les genres, en fait, on s'en fout, en fait,
oui,
tout simplement. S'il y a du talent derrière, on s'en fout complètement.
Mais
oui, ben, tu fais bien de le dire, parce que j'allais y venir. Donc, il a fait ses études de modèle nu pendant une période. Après, il n'a pas pu du tout travailler sur des nus. Donc, il a pu que s'inspirer de cette période de travail en studio où il avait les nus à disposition. Et il semblerait que pour tout un tas des nus féminins qu'il a fait, dites les baigneuses, donc les grandes baigneuses, les trois baigneuses, etc., il se soit inspiré des dessins des hommes qu'il avait fait. Et qu'en fait, elles ont des corps masculins. Donc tout ça.
Il était presque visionnaire, c'est pour casser un peu le genre de tu peux être une femme avec un corps masculin ou tu vois.
En tout cas, c'est génial et je comprends comment ça peut susciter l'intérêt et l'attraction de l'œil de pas vraiment avoir les codes et connaître l'énigme, mais d'être simplement perturbé par la forme d'un nu, soit son côté anguleux, soit son côté plantureux. Enfin, voilà, ça fait pas le même effet dans les mêmes yeux de tout le monde. Peut-être qu'il était aussi d'une timidité maladive et que son espèce de colère rentrée et aussi la façon qu'il avait de fanfaronner, parce qu'il paraît qu'il était assez à la fois brutal et fanfaron. Voilà, c'était sa petite armure pour cacher tous ces désordres émotionnels et sans doute sexuels. Mais après, je comprends bien, parce que c'est vrai que le Paris de ces années-là est vraiment très débridé et que pour quelqu'un qui a eu une éducation religieuse ou est sûrement très cloisonnante, très cloisonnée, c'est difficile de s'extérioriser de ça. Et du coup, l'art pictural, se peindre et exprimer l'invisible et le traduire en forme et en couleur et en énergie, c'est un travail merveilleux et c'est comme ça que Cézanne aussi a pu vivre, j'imagine, super vieux, qui s'est pas foutu en l'air, qui l'a tué personne, qui ne l'a malmené personne et qui l'a pas assassiné brutalement sa femme avec des centaines de petits coups de couteau dans la cuisine.
Tout à fait.
Personnellement, j'adore l'artichaut. Cette émission qui parle d'art.
Alors du coup, après, il y avait donc, bien sûr, les nus de Picasso. Et puis après, on arrive à Matisse. Mais bon, Matisse, on en a déjà parlé. Et puis en parlant de Picasso, donc, je dis, oh là là,
ton copain. Hein.
Ouais, on va pas encore parler de Picasso. Et puis du coup, je suis tombée sur une de ses femmes. Donc laquelle ? Alors c'est la sixième femme, je crois, parce que j'ai refait une liste à la fin. Donc c'est Françoise Gillot dont il s'agit. Et Françoise Gillot, elle est morte il y a tout juste un an, enfin genre le 6 juin de l'année dernière. Et je me suis dit que, il fallait que j'aille un peu voir qui elle était, parce que moi j'avais surtout aimé la période de Picasso avec Dora Maar. Et du coup, elle arrive après. Donc il a largué Dora Maar pour elle. Donc dans l'ordre, alors je vous les recite quand même. Donc Germaine Pichot, Fernande Olivier, Olga Kolkova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gillot et Jacqueline Roch. Alors il a eu 4 enfants de tout ça et il a 8 petits-enfants qui sont en train de se battre. Alors, qui était Françoise Gillot ? Alors, c'est une jeune fille de très bonne famille qui est née à Neuilly-sur-Seine le 26 novembre 1921. Elle a un père qui est chimiste et qui a d'ailleurs une boîte de parfumerie qui s'appelle la parfumerie Gillot. Et il est marié, sa maman s'appelle Madeleine Renoux et elle est peintre aquarelliste. Alors du coup, son père la destine à des études de droit. Elle commence ses études de droit, mais bon, comme vous savez, très rapidement, elle va préférer la peinture et le dessin. Et puis comme sa mère pousse un peu derrière et a sûrement donné un bon feeling avec ça, ça lui paraît tout naturel. Par contre, le père tape une crise et il décide de lui couper les vivres si elle rentre aux Beaux-Arts. Donc, elle ne se démonte pas. Comme elle sait très bien monter à cheval, oh yeah, elle donne des cours d'équitation dans le bois de Boulogne et ça lui permet de vivre, de survivre et en plus de se payer l'Institut Julian, qui est l'institut qui s'était ouvert la première pour les femmes. Donc, en mai 43, donc elle est toute petite, enfin elle a 21 ans, et c'est là qu'elle rencontre Pablo Picasso, qui en a 61, hein, et il est avec Dora Maar à ce moment-là. Donc, il la vire comme malpropre, et c'est la belle Françoise qui devient sa compagne. Elle va rester sa compagne jusqu'en 1953, donc 10 ans. Elle va lui faire deux de ses quatre enfants, Claude et Paloma. Et donc Picasso, qui représentait Dora Maar en disant « la femme qui pleure », il la représente sous l'apparence de la femme fleur et il la présente comme ça, c'est la femme fleur. Donc elle est radieuse, elle est solaire, elle est joyeuse, donc ça a l'air quand même pas mal de changer son émotionnel pictural, parce que clairement tout change, sa palette change, son sujet change et l'énergie et la joie de vivre changent aussi. Et il la surnomme la femme qui dit non. Donc elle le quitte en 53 pour aller s'installer à Paris avec les enfants. Et en 55, très rapidement, et pour se permettre d'avoir une carrière solo, indépendante, hors de toute influence du grand minotaure Pablo Picasso, elle se barre aux États-Unis avec les enfants. Alors, en 1962, elle se retrouve régente du collège de pataphysique. Alors, qu'est-ce que c'est que le collège de pataphysique ? Alors, j'avais ce nom-là, ça te dit quelque chose ? Enfin, quand je te dis collège de pataphysique ?
Absolument pas.
Donc, on doit ça au fabuleux Alfred Jarry. Donc, c'est un collège qui a été fondé le 11 mai 1948 par le docteur Sandormir. Donc, ils appellent ça, donc ils ont tout changé, les dates et tout. Donc, en fait, c'est le 22 Palotin 75 de l'ère pataphysique qui s'ouvre sur le jour de la naissance d'Alfred Jarry, le 8 septembre 1873. Donc, c'est une société de recherche savante et tout à fait inutile. Donc, du coup, elle se retrouve parachutée là-dedans comme régente. Donc, régent, c'est plus fort qu'auditeur. Et du coup, c'est une société complètement dada qui fait des recherches et qui travaille et qui s'amuse et qui surtout ne se prend pas au sérieux et qui peut, de ce point de vue-là, faire une critique acerbe et très joyeuse de cette société de transmutation dans laquelle ils vont être, parce que c'est l'ère de la technologie, voilà, c'est l'ère moderne, ils sont en plein dedans et de toutes les révolutions qui vont avec. Donc voilà, ces gars-là, ils ont déjà coupé les ponts avec la nouvelle société naissante des machines, et ils se font leur délire à eux. Alors la société a existé jusqu'en 1975, ça s'est arrêté en 2000, mais apparemment ça a été repris, et donc ils ont appelé cette grande période la période de l'occultation. Tu vois, donc voilà, ils s'amusent avec les mots, ils s'amusent avec la vie, ils s'amusent avec les couleurs, ils s'amusent avec l'art, la littérature, la poésie. Et voilà, Alfred Jarry est le roi de cette petite société qui, je dois dire, m'a beaucoup interloqué. Et donc, à la fin de cette émission, je vais aller rechercher beaucoup plus en amont sur cette société de pataphysique, parce que ça m'a l'air génial et que j'aime beaucoup l'esprit à la fois nouveau, mais surtout qui ne se prend pas au sérieux, comme tu me connais, Malou.
Tout à fait, mais moi aussi, ça m'a bien inspiré. On devrait faire une émission de pataphysique.
Oui, bah on va faire ça. Bah, dès qu'on va être bon là-dedans, qu'on aura le vocabulaire, les dates, les bons mois et les bonnes années, on va se projeter là-dedans.
On va travailler.
Alors, il paraît que toi, tu as fait une petite chronique aussi.
Oui, je t'ai fait une petite chronique. Et en vrai, je voulais en profiter et la diffuser dans l'artichaut, bien évidemment, mais aussi te remercier parce que notre émission, du coup, fête ses un an en ce mois de juillet. et que il y a une partie de moi, je pense, avant, était à peu près intéressée par les arts, mais je m'étais vraiment jamais trop plongée dans les peintres, les peintures, les époques, les machins, tout ça. Et depuis que j'ai commencé cette émission, et bah, c'est vraiment, je prends déjà un vrai plaisir à me cultiver de cette manière. Maintenant, dès que je suis dans des rues, que je vois des tableaux un peu machin, enfin, tu vois, j'y prête un œil différent. Et j'arrive même à trouver de l'inspiration dans mon travail, parce qu'à un moment, bon, voilà, après, il y a aussi le côté avec les actrices et tout qui m'ont inspirée ces derniers temps parce qu'on a perdu Shannen Doherty qui était une actrice que j'aimais beaucoup. Et en fait, tout un cheminement a fait que j'ai fait une petite chronique pas très longue, hein, de 4 minutes sur l'art en France au XVIIIe siècle.
Oh, mais je suis ravie d'écouter ça. Ben, tu nous la mets ?
Eh bah, ben oui, allez, je crois que je l'ai mis sur ce bureau tout à fait. Allez, bah voilà, Carotte, merci pour ton inspiration.
Ben, merci de répondre à l'appel de la création. C'est toujours merveilleux, mais c'est plus grand que nous.
L'art en France au XVIIIe siècle. À l'époque des Lumières, les frontières de l'esprit s'élargissent. Les philosophes européens de l'époque défendent la diffusion du savoir. En France, Montesquieu, Rousseau, Diderot et Voltaire exaltent l'esprit des Lumières et le souffle de la liberté, chacun à sa manière. La peinture française, elle, au XVIIIe siècle, est marquée par le goût rococo qui inspire toutes les formes de l'art. Le rococo et le néoclassicisme caractérisent les arts visuels et plastiques ainsi que l'architecture en France de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle. En France, la mort de Louis XIV va conduire à une période de liberté communément appelée la Régence. La peinture se tourne vers les fêtes galantes et les décors de théâtre. Les peintres de cette période adoptent un style plus léger avec des couleurs pastel. La nature, l'être humain, la raison et la tolérance apparaissent comme des fondamentaux. Le XVIIIe siècle se distingue par une effervescence intellectuelle inédite dont l'esprit de curiosité touche à tous les domaines de la connaissance. À cette époque, on s'intéresse à la diversité du vivant, on progresse dans les domaines de la physique et de la chimie, on lance des expéditions pour découvrir des terres inconnues jusqu'alors, des livres et des journaux alimentent le débat d'idées et l'on repense la place de l'homme dans le monde. Parmi les femmes de lettres du XVIIIe siècle, Olympe de Gouges prend position contre l'esclavage et, déjà avant la Révolution, assume ouvertement ses convictions abolitionnistes et féministes. En septembre 1791, Olympe de Gouges fait apparaître la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui rappelle que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Jamais l'influence de la culture française ne sera aussi grande. Le français est parlé par toutes les élites européennes et pendant tout le siècle, l'art qui s'élabore en France va rayonner sur une grande partie de l'Europe. Le XVIIIe siècle est un ciel exceptionnel à plus d'un titre. Deux styles le caractérisent, le baroque et le néoclassique, quintessence de l'art français. Dégagé du carcan du grand siècle, la Régence, le règne de Louis XV, s'ouvre sur une éclosion artistique, une approche différente des arts où prime la délectation, le confort et le plaisir. Au tournant du siècle, l'esprit des Lumières, les avancées technologiques, les découvertes archéologiques amorcent un changement irréversible. À l'approche de la tourmente révolutionnaire, raison et passion s'affrontent.
Et voilà.
Ben c'était super, merci. Ben merci. Bon, déjà, j'adore ta voix, que je trouve excessivement douce et radiophonique. C'est un vrai plaisir. Deux, ben oui, super, la raison et la passion, ben c'est toujours ce qui nous anime. Hein, donc, je crois qu'on n'a pas encore allumé la lumière, vraiment, là-dessus. Et c'est ce qui fait tourner le monde, c'est ce qui fait tourner les planètes aussi. Donc, l'équilibre et le déséquilibre, et l'équilibre qui vient pour compenser le déséquilibre. Donc, tout ça est finalement tout à fait naturel. Mais c'est vrai que voilà, ça s'intellectualise, ça se politise et ça s'exprime en art, évidemment. C'est très chouette. J'aime beaucoup ces petites chroniques. Eh bien, vas-y, fonce. Hein,
Eh bien, peut-être. Hein. Mais merci, en tout cas, je suis contente que ça te plaise.
Ben, de rien. Ben, voilà. Mais en tout cas, si vous êtes là et si vous nous écoutez depuis la piscine...
Un petit cocktail dans la piscine.
Une beach party, ouais, une beach party entre amis, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous embrasse et moi, je vous retrouve vendredi prochain. Je
vous embrasse. À tout bientôt.
À tout vite. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.
Lying in a meadow green, tangling lakes in a mountain stream. From a limb we could jump right in again and again. Up in the orchard on the hill, sat right down and had our fill. And though the clouds are touched with gray, we know no rain will fall. So let's take a long way home and circle round the standing stone. And through the fields and the old barway, we fill our pockets up with pecans along the way. And all along the railroad track, slip off that rail and break your back. Hear the sound of the croaking toad, the sun so round and red and low. Summertime. Summertime was healed to fall. That's what hurts me most of all. Summertime. Summertime. Said goodbye. The garden wall. From the house I can hear my mama calling. Winter come to us all, my friend. Just as every childhood has an end.
RDWA Radio, www.rdwa.fr.
T'es sur RDWA et on t'aime, ouais.
Bonjour RDWA, alors je l'ai dit haut et fort, l'artichaut c'est le meilleur.